Les plumes sur RCN, présenté par Mona.
Bonjour à tous. Le prix de la Cour de l'imaginaire a été créé à l'initiative d'un collectif de passionnés des littératures de l'imaginaire. Il vise à récompenser chaque année le tapuscrit francophone et inédit d'un roman ou d'un recueil de nouvelles relevant des littératures de l'imaginaire et remarqué pour ses qualités d'écriture et d'imagination. Le prix 2024 a été attribué à Ryan Liber pour son roman « L'heure des revenants ». J'ai donc le plaisir d'accueillir le lauréat 2024, Ryan Liber, et un des membres fondateurs du prix de la Cour de l'imaginaire, Raymond Hiss. Bonjour messieurs et bienvenue.
Bonjour madame.
Bonjour.
Alors Raymond, depuis quand existe ce prix de la Cour de l'imaginaire?
Eh bien le prix de la Cour de l'imaginaire existe depuis 12 ans et a permis donc à de nouveaux auteurs d'accéder à l'édition. Donc on le fait, nous ne sommes pas éditeurs. Et nous sélectionnons des tapuscrits chaque année. Nous en recevons, l'an dernier nous en avons une quarantaine, je crois, je n'ai pas regardé le chiffre exact, et nous en sélectionnons un qu'on édite ensuite en partenariat avec un éditeur. Actuellement, ce sont les éditions Nerea de Nancy.
D'accord, donc c'est le prix.
C'est le prix, c'est le fait
c'est
d'être
l'édition.
Édité. Quoi. Et donc, le but de la manœuvre est de faire accéder un auteur nouveau à l'édition et de l'encourager à continuer à écrire. Et ça a très bien marché, on garde toujours des relations avec nos auteurs. Et un grand nombre d'entre eux ont continué à être publiés, ont continué à écrire. Et l'une d'elles, Claire Garand, pour son deuxième roman, a obtenu le prix Julia Verlanger en 2023, un grand prix de la science-fiction.
D'accord. Et donc, le concours 2025 est déjà lancé?
Il est lancé, oui, il s'achève le 31 janvier. Donc, je continue à faire des appels à des auteurs. Si vous avez un manuscrit dans les domaines de l'imaginaire, donc science-fiction, fantastique, fantasy, vous nous l'envoyez.
Non édité, on précise bien.
Et donc, pour connaître le règlement du prix, vous allez sur lacourdelimaginaire.com, la Cour de l'imaginaire en un seul mot, et vous trouverez le règlement du prix.
D'accord. Bon, donc avis aux amateurs. Alors, cette année, donc, c'est Ryan Liber qui voit son roman « L'heure des revenants » publié donc, aux éditions Nerea. Alors, Ryan, vous pouvez vous présenter, nous parler un petit peu de vous?
Voilà. Bonjour tout le monde déjà. Je m'appelle donc Ryan Liber. C'est bon à titre informatif, c'est un nom d'auteur.
On en parlera après.
Voilà.
Oui.
Je me cache un petit peu encore. Qu'est-ce que je peux dire? Ça fait un certain nombre d'années que j'écris. Maintenant, c'est ma première réussite, on va dire. ma première publication. Donc, merci à la Cour de l'imaginaire de m'avoir sélectionné et d'avoir choisi mon œuvre. Ça m'a énormément touché. J'ai très ému après cette réussite.
Oui, d'accord. Oui, ça doit faire drôle de voir son premier livre dans les mains.
C'est de la science-fiction, littéralement. C'est littéralement de la science-fiction d'avoir pas avoir un papier fait avec l'imprimante du copain ou à la maison l'avoir fait, mais sinon c'est d'avoir quelque chose de professionnel dans les mains avec en plus je spoil un petit peu la jaquette a été faite par un l'image sur la jaquette a été faite par un ami. Très cher à moi, je te le salue d'ailleurs, qui a lu mon livre, qui a adoré mon livre et qui en a fait du coup un dessin, donc merci à lui, donc c'est quelque chose. Ouais.
Vous pouvez donner son nom hein.
C'est Jeff Lyon, vous le trouvez facilement sur Instagram, c'est un très bon tatoueur d'ailleurs, si des gens sont intéressés, n'hésitez pas.
D'accord. Alors, Ryan Liber est un pseudonyme. Pourquoi se cacher derrière un nom d'emprunt? Et comment vous est venue l'idée de vous appeler Ryan Liber? Ça fait référence à quelque chose de précis?
grosse question. Pourquoi se cacher? Ben, pour les raisons habituelles, je dois dire. C'est déjà parce que c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Et c'est de sortir à la lumière parce qu'il faut bien se rendre compte que... Je me rends compte, je pense qu'il faut bien se rendre compte que la chance qui m'a été donnée d'être publiée est assez, je dirais presque exceptionnelle. Il y a tellement de gens qui écrivent dans leur coin, qui se donnent beaucoup de mal. J'ai rencontré tellement de gens qui n'ont jamais réussi à gagner un concours, ou qui ont essayé parfois en vain, mais qui sont toujours accrochés, qui écrivent juste eux pour le plaisir et de pouvoir sortir d'une certaine manière à la lumière. C'est à la fois extraordinaire, et à la fois très effrayant, je savourais. Donc c'est pour ça que j'ai préféré me cacher un petit peu derrière ce pseudo.
Un petit peu.
Et d'où il vient ? Alors c'est pour faire l'histoire assez courte. Si vous le prenez à l'envers, ça ferait Liberian en fait.
D'accord.
Et Liberian, c'est une référence en fait à une faute de frappe déjà et à l'époque et à des personnages dans un univers qui s'appelle Warhammer 40K, un univers ultra futuriste, dark fantastique, enfin dark sci-fi plutôt. Ou des certains personnages humains, je vais pas parler trop du sujet parce que c'est très très massif comme sujet, mais c'est de la très très haute SF, voilà. Et il y a des personnages là-dedans qui s'appellent des Labrian, c'est des sortes de gardiens en fait des secrets de chapitres de grands guerriers de cette époque-là. Dans 40 000 ans, et c'est les Labrian. Et je voulais m'appeler ça dans un jeu vidéo, et j'ai fait une faute de frappe à ce moment-là. Au lieu d'écrire Labrian, j'ai écrit Liberian, et c'est resté. Et je l'ai inversé pour avoir mon nom d'auteur.
Alors, votre roman se situe en août 1917, et votre héros est un soldat qui écrit un journal de guerre, sur un petit carnet, naturellement, pour son meilleur ami décédé lors des combats de 1915. Alors, pourquoi avoir choisi cette période ? Vous êtes passionné par l'histoire et plus particulièrement par la guerre de 14-18 ?
J'ai une formation d'historien, en effet. J'ai passé 5 années d'études supérieures en histoire-géographie, pour faire très simple. En particulier, mon master 1 a été tourné vers l'histoire militaire. Pour faire aussi très simple, parce que les noms en études supérieures sont excessivement longs pour pas grand-chose. Et du coup, j'ai un bagage culturel qui est très lié à ça, notamment à cette période. Bien d'autres, évidemment, mais la Première Guerre mondiale, dans les études supérieures en histoire, notamment militaire, évidemment, c'est une période auquel on est très, très penché dessus. C'est une part de notre histoire très, très importante, qu'il ne faut pas oublier. Et mais pourquoi vraiment j'ai choisi cette-là. En fait, je ne l'ai pas vraiment choisi. Pour tout avouer, je l'ai rêvé, en fait. Oui. j'ai rêvé de cette nouvelle, en fait. Tout ce que vous avez lu, bon, beaucoup de détails pour que l'histoire tienne, pour qu'il y ait un background plus solide, évidemment, à force de recherche pour... Voilà, je l'ai créé à partir de recherches, mais la trame générale, la trame principale, je l'ai rêvé. C'est voilà. Donc un matin, je me suis levé, j'avais tout ça en tête, j'ai fait waouh, je l'ai écrit. Et après, je l'ai travaillé, retravaillé encore, et ça a donné ça.
Bon, il y a beaucoup d'écrivains qui peuvent vous envier là, parce que de se réveiller avec le roman presque fait.
c'est quelque chose. pour la petite histoire, ça vient pas de nulle part. Pour moi, les rêves ne viennent pas de nulle part. Évidemment, comme j'ai dit, j'ai un background lié à l'histoire et notamment à la Première Guerre mondiale, au vu de mes études et de mes intérêts personnels. Surtout, j'ai au lycée. Donc ça remonte un moment, ça commence à remonter un petit moment maintenant. J'avais pris l'habitude d'écrire mes rêves. J'avais un carnet que j'ai toujours d'ailleurs. De temps en temps, ça m'arrive de remettre des écrits là-dedans. Où le matin, je me levais, j'écrivais ce dont je me souvenais. C'est le premier réflexe que j'avais, que j'avais réussi à avoir. C'est le matin, je me lève avant quoi que ce soit. Je prenais ce carnet, je prenais mon stylo, j'allumais les lumières et j'écrivais ce dont je me souvenais. Et au fur et à mesure, à force de travailler, à force d'écrire, les rêves étaient de plus en plus concis, étaient de plus en plus longs, jusqu'à arriver à des stades où j'ai pu carrément en sortir un roman. Et c'est pas le seul, pour l'anecdote, j'en ai d'autres aussi comme ça.
D'accord. Bon. Et donc les recherches historiques que vous avez dû en faire en plus, bien sûr, de votre bagage. Parce que je suppose que là, comme c'est très très détaillé, j'imagine que vous avez dû faire des recherches en plus de ce que vous aviez appris à la fac.
Oui, comme dit, évidemment, il a fallu, évidemment, la matière venant du rêve n'était pas suffisante. J'avais la trame principale, mais il fallait bien que tout soit solide sur papier. Donc oui, il a fallu évidemment que je me replonge dans mes études, que je replonge dans certains livres, même certains auteurs aussi, que je peux citer par exemple. exemple Barbus avec le feu, par exemple, ou la peur aussi de Chevalier, voilà, des auteurs que j'ai lus aussi, qui m'ont apporté évidemment une sorte de, comment dire, j'ai que le mot légitimité qui vient en tête parce que j'ai pas vécu la Première Guerre mondiale, spoiler alert, mais ces gens-là l'ont vécu, l'ont écrit et nous l'ont redonné et ils ont été très importants dans plus que la recherche du contexte, mais aussi de comment essayer de retranscrire au mieux cette période-là, en fait. Mmh. Et en étant un soldat, un lieutenant, d'être un soldat vraiment de la Première Guerre mondiale et qui veut écrire sur son quotidien et ce qui se passe, et comment essayer d'être le plus proche de la réalité qu'eux ont vécu.
Oui, d'accord. Et donc, vous avez terminé vos recherches avant l'écriture ou ça s'est fait concomitamment?
Non, c'est... vraiment, ça a été d'abord l'écriture du rêve en soi.
Oui.
Puis des recherches pour savoir où est-ce que je voulais aller et ce dont j'avais besoin, en fait. Mm-hmm. Et ensuite, l'écriture en elle-même, avec quelques recherches en plus, parce que, ah mince, ce petit détail, notamment sur le vocabulaire de Poilu, qui est très spécifique et que je voulais évidemment utiliser pour être en plus raccord avec ouais. l'histoire.
Mm-hmm. Donc vous êtes ici en Lorraine. Et vous savez bien que ça, Verdun, je veux dire, c'est resté dans toutes les mémoires, hein, nous, actuellement. Les jeunes, je ne sais pas, Montpellier, je ne sais pas si ça leur parle beaucoup, mais ici, la guerre de 14, c'est encore quelque chose d'important.
Oui, j'ai eu cette petite pensée en arrivant à la gare juste avant de Champagne-Ardennes. Et j'ai regardé autour de moi, évidemment, il y a beaucoup moins de trous d'obus, beaucoup moins de no man's land. Heureusement, et je suis bien heureux de ça. Mais c'est vrai que... En arrivant à ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai que je suis... En fait, je suis pas très loin de là où le livre se passe, en fait.
Oui, c'est ça.
Peu de choses près, on est beaucoup plus proche que Montpellier, en tout cas, ça c'est certain.
Ça c'est certain. Alors, nous allons revenir après une pause musicale et nous allons écouter Bob Dylan, bien sûr. Excusez-moi.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Ryan Lieber, venu nous présenter son roman « L'heure des revenants » publié aux éditions Nerea. Ryan, alors que tous les soldats français sont identifiés dans votre roman, votre narrateur, l'auteur du journal, reste anonyme. On sait juste qu'il est lieutenant. Le nom de son ami reste aussi inconnu pour le lecteur. Alors pourquoi ces deux-là ne sont pas nommés ?
Il n'y avait pas besoin. Pour moi, il n'y avait absolument pas besoin. En fait, c'est quelqu'un qui a écrit pour lui-même. Il ne va pas mettre son nom partout à l'intérieur pour dire que lieutenant, machin, c'est moi. Enfin, ça aurait été.
Oui, non, mais peut-être.
Illogique, selon moi.
Sur son carnet. Au moins sur la page de son carnet pour qu'on puisse le lui rendre s'il l'égarait.
Alors, si, pour cette question-là, j'ai ma réponse. Il faut aussi se mettre en tête qu'on est dans un conflit armé.
Oui.
Et normalement, la règle dans des conflits armés, enfin, il y a beaucoup de règles là-dessus, mais c'est de mettre le moins d'indices sur qui on est et d'où on vient, ce genre de choses. Donc mettre des noms des lieutenants amis, ça ne veut pas dire grand-chose, mais mettre son nom ou l'endroit où on est, ça, si on est capturé et qu'on récupère ce carnet, on peut en utiliser l'information. Donc c'est... Voilà. Donc, j'ai préféré non.
Alors votre narrateur est un homme bon qui prend soin des hommes qu'il a sous ses ordres.
Il essaie.
Il a beaucoup d'humanité en lui, à l'inverse de certains généraux, certains même autres lieutenants.
C'est un conflit armé, c'est très compliqué. Il essaie en tout cas, il fait de son mieux. On a tout à l'heure, il me semble que vous avez choisi un passage
oui.
justement après un.
Ouais, oui.
On peut en parler tout de suite, mais et.
Non, mais il a beaucoup d'humanité, lui.
Il fait de son mieux. Il est guidé, comme on peut le découvrir très rapidement dans le livre, il est guidé par son ami mort qui avait énormément d'humanité, énormément de gentillesse, sympathie. Il était toujours là pour les autres et surtout pour son ami maintenant qui écrit. Et il veut être un exemple comme lui et lui rendre honneur et hommage de cette manière-là. Mais évidemment, comme on est dans un conflit armé, c'est jamais très simple. Les frontières entre bien et mal sont complètement brouillées.
Bien sûr.
On a dans les moments de panique, les moments difficiles, les moments de sous le feu, c'est difficile de garder son unité. C'est très très compliqué.
Mmh. Alors pourquoi écrit-il ? Pour ne pas oublier ce qu'il vit au jour le jour ou pour ne pas oublier son ami défunt ?
Un peu de tout, oui. C'est ne pas s'oublier, ne pas l'oublier, ne pas... Ouais, c'est marqué, essayer de continuer à faire autre chose que juste la guerre, en fait. Peut-être laisser une marque pour plus tard, pour quelqu'un d'autre. C'est tout.
Mmh. Non... Alors, votre roman se situant sur le front en août 2017, vous décrivez naturellement des scènes de guerre. Ces scènes sont plutôt violentes, mais reflètent la réalité. C'est difficile de décrire les atrocités des moments vécus par les poilus ?
Très. C'est très compliqué, surtout quand on ne l'a jamais vécu soi-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai lu des auteurs de l'époque. Je me suis beaucoup renseigné aussi sur... évidemment, à l'époque, pendant mes études, j'avais... analyser des lettres, aussi de poilus, plein de choses de ce genre-là. Des documentaires aussi, de très grands documentaires. Un particulier qui me revient en tête là maintenant, que je conseille à tout le monde, je ne sais même pas s'il est encore trouvable, c'était un documentaire qui s'appelait juste Verdun, sobrement Verdun. Très 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 beau documentaire sur la Première Guerre mondiale. Je me souviens plus de la question. Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît ?
Je me disais que ça devait être difficile d'écrire.
Oui, voilà,
les
merci. Oui, et on a que ça, on a que cette matière-là pour essayer de se rapprocher au mieux de nous plonger nous-mêmes et de plonger les lecteurs et lectrices dans cet univers-là, en fait. C'est très, très compliqué. Donc, je ne sais pas si j'arrive à effleurer la réalité de ce qu'ont vécu les soldats de l'époque. J'essaie, en tout cas. Comme lui, il essaie de garder son humanité.
Alors lors de ce conflit, il y a eu des mutineries essentiellement dues à l'incurie du gouvernement et des généraux, de certains généraux. Alors personne ne peut en vouloir à ces soldats qui n'en pouvaient plus. Vous voulez bien nous lire un extrait de votre livre ?
Oui, bien sûr. Du coup, ce fameux extrait. Hop. « Le temps de me ressaisir, un soldat amant vint sauter dans notre tranchée à l'endroit où se trouvait, quand il était encore entier, Girardot. Il me vit immédiatement, pointa son fusil vers moi, le regard fou, plein de l'adrénaline indispensable à notre cerveau et à nos muscles dans ces instants meurtriers, unique charbon à nos actions quand les hurlements des hommes, mêlés au tonnerre des bombes et au crachat des mitrailleuses, deviennent notre seule réalité. J'ai vu venir ma fin. Incapable de bouger, j'attendais bouche bée le coup de baïonnette libérateur. Je ne sais plus pourquoi je n'ai rien fait, ni ce qui pouvait bien se passer dans ma tête à ce moment-là. Je me rappelle seulement que j'étais tétanisé en apercevant un représentant de la mort debout, au-dessus de moi, préparant son geste fatidique. Le destin en a voulu autrement. Il n'a jamais abattu sa lame sur moi, car celle de Noël l'a trouvée avant, le transperçant de part en part en pleine cage thoracique. L'Allemand lâcha son arme, tomba sur moi de tout son poids, me découvrant ainsi mon sauveur, l'air hébété par le meurtre qu'il venait de commettre. Crime que nulle justice humaine ne lui reprochera. Il venait de prendre la vie d'un homme pour en sauver un autre, et quand je réussis à me dégager pour me relever enfin, je vis dans ses yeux que son âme avait changé. Je pouvais y lire ce que l'on peut deviner dans ceux de tout vétéran. La complète révélation que nous sommes déjà tous condamnés. Dès la première seconde où nous mettons les pieds dans ce carnage incompréhensible, la première seconde où nous posons notre regard sur le charnier du champ de bataille, nous sommes déjà morts. Il faut l'accepter pour survivre et accomplir nos tâches. Depuis, Noël a été de tous les combats avec moi, jusqu'à ce mois de mai 1917 où parmi tous, il fut le premier à refuser d'aller au front. C'est à mon tour d'être hébété. Je m'attendais certes à ce que l'un d'entre eux se mette à désobéir étant donné ce que j'avais pu entendre les jours précédents, mais pas lui. Pas alors qu'il y avait peu, nous gravissions ensemble des monticules de cadavres sans vie pour sauver la nôtre, nous blottissant l'un contre l'autre dans les trous à notre portée pour échapper à la furie des tirs de barrage. Mon sang ne fit qu'un tour et je passai de l'ahurissement à la fureur. Je me sentais trahi et insulté par son comportement. Je me mis à déverser sur lui toute ma rage, l'injuriant des pires mots que je connaissais. Mais lui ne bougeait pas un muscle. Il me regardait sans rien dire, me laissant vider ma boule de pus sur lui. Impassible. La colère m'emportait de plus en plus loin en voyant l'inefficacité de mes vociférations. Je crois que j'ai perdu la tête, car je me suis retrouvé avec mon revolver en main, pointant le canon sur son visage. Je me suis entendu lui donner un ultimatum. Il se levait, ou c'était le peloton d'exécution. Là, il s'est doucement relevé. Sans jamais me quitter des yeux et sur son visage, j'ai pu voir une profonde tristesse qui m'a rendu la maîtrise de mon corps. Je venais de menacer l'un de mes soldats. Que dis-je ? L'un de mes plus vieux camarades d'infortune. J'étais résolu à lui loger une balle dans la tête, alors que nous avions survécu à tout ce que l'homme moderne avait pu créer comme outil de mort depuis 2 ans. Combien de fois égratigné, même blessé, mais toujours là, endurait quotidiennement 1000 souffrances. L'un de mes sergents à mes côtés, qui me regardait gravement, profita de la fin des tensions pour mettre la section en marche. Mes hommes défilèrent devant moi, et j'ai pu voir chez eux qu'un certain lien vital entre nous venait de se briser. J'en étais bouleversé. Je suis resté là, perdu, à voir sans les voir les troupes passer devant moi, leur mine basse, pleine du désespoir de n'être pas entendu par leur officier direct, qui, pourtant, partageait la même existence qu'eux. Le mal était malheureusement fait.
Et merci. Alors la mort au quotidien, c'est très très éprouvant. Mais quelque chose d'autre frappe aussi, sans distinction de rang ou de nationalité. Quelque chose d'autre survient. C'est l'heure du revenant, des revenants. Vous voulez nous en parler un petit peu ?
Oui, mais si vous voulez.
Mais très peu, pour pas dévoiler tout, bien sûr.
Que dire le moins possible, sans trop en dire. C'est compliqué. Disons que il y a un moment où la guerre doit finir, où les atrocités doivent finir, où, comme on l'appelait à l'époque, c'était la der des der, et quelque chose va y réussir à faire en sorte que ce soit la der des der.
Voilà. Oui, de façon vraiment, je veux dire, révolutionnaire, cette façon de...
On peut dire ça.
Alors, vous écrivez également des nouvelles, mais lors de la rédaction de L'Heure des Revenants, vous vous êtes complètement immergé dans l'écriture ou vous avez fait des pauses et vous avez écrit d'autres textes ?
Généralement, quand j'écris un texte, je reste sur ce texte. J'ai besoin de rester immergé dans ce que j'essaie d'écrire, de ce que j'essaie de retranscrire sur papier. Comme une série ou un film, pour moi, il y a des gens, ou un livre. Mm-hmm. Quand je commence un livre, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout avant de passer à un autre. Il y a quelques rares exceptions. En ce moment, je commence à peine un livre, un auteur japonais. Mais en même temps, je lis quelque chose sur Tolkien. Mais bon, c'est de la poésie, c'est pas exactement pareil. Donc j'arrive à alterner entre l'un et l'autre. Mais sinon, non, c'est quand je me mets dans quelque chose, c'est jusqu'au bout.
D'accord. Mm-hmm. Alors, donc vous réussissez parfaitement à faire monter la tension.
Merci.
Jusqu'à l'apothéose finale. C'est un vrai tour de force. C'est difficile de faire monter la tension comme ça, tout doucement. Ça vous demande beaucoup de travail pour écrire, réécrire.
Oui, j'ai bien passé bien 3 ans sur cet écrit.
3 ans.
Mmh. 3 ans, avec certaines pauses, parce que bon, j'ai d'autres choses à faire aussi, évidemment. Mais oui, le travail d'écriture, et surtout quand on essaie de se mettre dans un contexte historique, je trouve, de vraiment retranscrire un contexte, de vraiment retranscrire une part de notre histoire, même si on y ajoute un brin de fantastique ou de science-fiction, qu'on altère certaines choses, mais qu'on veut retranscrire quelque chose qui a été vécu, on a besoin vraiment de se rapprocher au plus, et c'est très compliqué, c'est très très compliqué.
De rester immergé dedans.
Oui, c'est très dur. C'est pour ça tout le travail de recherche pour essayer de coller au mieux, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, ça demande beaucoup de travail. Certains, peut-être d'autres, ont beaucoup plus de facilité que moi, et tant mieux pour eux. Moi, je sais que j'ai voulu y mettre beaucoup de choses, de moi, mais aussi de notre histoire, j'ai tout donné.
Parce que la tension monte déjà avec la guerre, avec les scènes de guerre, etc. On sent bien, mm-hmm. Mais avec ce qui arrive en plus, c'est une autre tension qui monte toujours.
Oui, j'ai voulu vraiment aussi... J'ai voulu vraiment que les gens aussi puissent vivre un peu ce que j'ai vécu émotionnellement dans mon rêve. Parce que beaucoup des scènes de guerre, notamment la scène dont je viens de vous lire juste avant, il y a donc ce soldat allemand qui tombe dans la tranchée. Enfin, c'est une scène vraiment de combat où il y a un assaut allemand sur leur tranchée et ils doivent se défendre. Il faut s'imaginer que des passages comme ça, je les ai vraiment... avec des grosses guillemets, je les ai vraiment vécues dans mon rêve, en fait. Et mes rêves par rapport à certains, je sais que peut-être je fais pas partie d'une exception, mais pour en discuter beaucoup, j'ai des sensations de toucher, j'ai des sensations de chaleur, de froid. S'il y a du vent, je ressens le vent, le soleil, je peux le voir. Enfin, j'ai beaucoup, mes sens sont très sollicités lors de mes rêves, et notamment sur des rêves aussi puissants. Donc, voilà, en plus, il faut réussir à plonger les lecteurs et lectrices là-dedans, dans toutes ces émotions puissantes qui m'ont immergé et qui, j'espère, les immergent aussi.
Oui. Écoutez, on ne va pas en dire plus, on va laisser les lecteurs découvrir ce qui arrive, hein, bien sûr. Alors, votre roman se termine aussi par une playlist. Alors, vous écrivez en musique, et pourquoi cette playlist ?
La musique fait partie de mon quotidien depuis que je suis tout petit. J'ai grandi dans la musique. Mes parents m'ont abreuvé de tout. Si vous regardez derrière, vous avez beaucoup de musique classique, mais j'ai grandi avec les Beatles, un petit peu avec Bob Dylan qu'on a entendu tout à l'heure, Bob Marley, les musiques aussi de chants africains comme les divas du Mali, certaines divas du Mali. Donc j'ai écouté de tout, et dans mon quotidien j'en écoute constamment parce que ça m'entraîne, ça me donne un rythme, ça m'emporte, ça me permet de m'évader. C'est très important pour moi, et j'ai voulu en mettant cette playlist permettre aux gens de peut-être s'évader aussi un petit peu avec moi, ou de se mettre un peu plus dans l'ambiance dans laquelle je me suis mise aussi pour écrire du mieux possible.
Et vous avez écrit en musique ou dans le
silence ? Oui, bien sûr.
Ah,
toujours en musique.
D'accord.
J'écris constamment en musique. C'est très important. Et c'est n'est qu'une playlist pour cette nouvelle. Les playlists changent en fonction de ce que j'écris.
D'accord. Alors, la guerre ne sert à rien. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Edwin Starr qui le chante avec War.
Yes.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors, vous avez publié dans City Crunch des histoires farfelues sur votre ville de Montpellier. Alors, pour amuser un peu nos lecteurs, parce qu'on va sortir de la guerre, là, vous voulez bien nous faire la lecture de votre nouvelle, La secte des piliers de bar?
Oui, c'est... un petit mot avant ça, pour bien comprendre d'où ça vient. Bon, ça fait maintenant 30 ans que j'habite à Montpellier, donc la ville, je la connais assez bien. Là, on va pas se mentir. Et j'ai une imagination un peu débordante. C'est pour ça que je l'exprime en écrivant aussi. Et pour, disons, sublimer un quotidien connu, sublimer un quotidien assez, assez connu, j'ai dans lequel je me balade tous les jours, quotidiennement, j'ai imaginé des choses de ce quotidien, pris des éléments du mobilier urbain, de l'architecture, essayé d'en tirer quelque chose de loufoque. La secte des piliers de bar, c'est la deuxième nouvelle. Il y en a maintenant 8 qui existent, mais très peu sont sur City Crunch. Je crois qu'il y en a 3, 4, il me semble que vous avez vu. 4, voilà, c'est ça. Mais il y en a 7 en tout. Et il y en a une 8e qui est en train d'être finalisée actuellement et que j'aimerais publié en recueil de nouvelles sur Montpellier, qui c'est un de ces quatre. Et celle-là vient après du coup un passage où j'en vois les lecteurs et lectrices se balader au Cresc. C'est un village-ville qui est au bord de Montpellier, qui est facile d'accès maintenant grâce au tramway à Montpellier. On est chanceux là-dessus. Et c'est un petit lac, voilà, très sympathique. Et du coup, c'est pour ça que ma première phase de la sec des Pays de Bar commence par après notre séance de natation au Cresc, au milieu des canards. Il est temps de retourner en ville. Cette première escapade t'a sûrement donné soif. Quoi de plus naturel ? De fait, après un crochet par une douche, ou pas si tu es un gros ou une grosse dégueulasse, afin d'être présentable, dépendant de tes préférences face aux chouquettes ou aux beaux garçons de la ville, tu te dirigeras vraisemblablement vers l'un des nombreux débits de boissons du centre-ville. Le soleil est encore bien présent dans le ciel, en ce début de soirée, une brise légère t'enveloppe, te berçant de sa douce chaleur estivale. Les piaillements des martinets se portent jusqu'à tes oreilles, et si tu lèves le nez, tu pourras admirer leur balai dans les cieux, promesse d'une belle et chaude soirée. Dans cet agréable environnement, tes pieds malins t'ont baladé un brin afin de trouver ce verre plein si demandé par ton gosier asséché. Ton choix se porte sur une terrasse à l'abri des vieux bâtiments du centre. La commande arrive. Sans plus attendre, tu goûtes ce breuvage tant désiré. La paix, l'harmonie s'emparent complètement de toi. Des amis vont te rejoindre ou tu se resteras seul. Cela n'a aucune importance à cet instant présent car de toute manière, notre propos est ailleurs. Notre propos se trouve au comptoir, à siroter un vin blanc. Ou non loin de toi, à l'extérieur avec sa bière, seul ou accompagné, le visage rougi par les nombreux godets de la vie, la peau souvent tannée par la pause sur les terrasses ensoleillées, allant et venant sans but apparent, discret ou exubérant, au point de venir te gratter l'amitié, brisant ainsi ta béatitude béate par sa discussion absurde et son haleine de fond de bouteille vinaigrée. Je veux te parler des poivrons, souvent et communément nommés les piliers de comptoir. Attention, hein! Je parle des véritables piliers de comptoir, hein, ceux qui sont toujours présents par tous les temps, qu'il pleuve ou qu'il vente. Toujours un verre plein à la main et quand il est vide, on le plaint très rapidement. Ces êtres sont partout et chaque bar possède le ou les siens propres. Hein. Même si certains piliers de comptoir, que nous appellerons PDC pour des raisons évidentes de flemme, vont et viennent entre plusieurs bars, on les nomme alors PMDC, piliers mobiles de comptoir. Ce que vous ne savez pas, c'est que ces PDC se connaissent tous entre eux. En effet, derrière ces visages si sympathiques d'alcooliques se cachent les membres d'une secte très puissante à Montpellier, la secte des piliers de bar. Présente depuis des temps immémoriaux dans tous les empires et royaumes, assise sur des tabourets ou à même le sol dans toutes les contrées du monde, traversant les âges et les révolutions, tout comme les dictatures et les républiques, la secte des piliers de bar a des ramifications partout où il y a un débit de boissons, et son histoire remonte aux premiers instants où quelqu'un a décidé de vendre de l'alcool pour subvenir aux besoins des soifards de son clan. Montpellier n'y a pas échappé, hein. Notons au passage que chaque ramification a un nom différent afin de protéger ses consoeurs en cas de problème, mais qu'elles restent toutes liées entre elles. Son credo, in vinas veritas, est respecté par tous les membres de la secte, lesquels ont pour but ultime de protéger les bars, considérés comme des hauts lieux de socialisation et de partage. Et d'ivresse. Pour y rentrer, dans la secte, hein, pas dans le bar, il faut boire. Mais pas n'importe où, ni n'importe comment. L'initiation est longue, arrosée et âpre, mais surtout arrosée. Et le nouveau venu en ressort avec une faculté d'ingurgitation et une résistance à l'alcool époustouflante. En effet, chaque membre est quasiment immunisé aux effets nocifs de l'alcool au point d'être devenu expert dans la simulation d'embourrer. Même si tu surprends un PDC vomir après une soirée bien liquide, n'y crois pas un instant, il fait semblant. Il faudrait de quoi tuer un éléphant pour donner ne serait-ce que le tourner à l'un d'eux. Chaque jour, chaque nuit, ils veillent au grain, protégeant, surveillant leur bar et la faune qui les habite, tel Batman un verre à la main. Et comme Batman, dans chaque ville, ils ont un repère secret. Dans les prochaines lignes, il se sera révélé le lieu de culte et de rassemblement à Montpellier. Cependant, je dois te prévenir de ne pas t'y aventurer sans y être expressément invité, au risque de comprendre le véritable sens de « boire pour oublier ». Aux portes de l'Écusson, près des Halles les Sacs, au niveau de la station de tramway Observatoire, au prier du boulevard du Jeu de Paume, à la jonction entre Vieux Centre-Ville et Gambetta, à 43 degrés 36 minutes et 23,5 latitude nord et 3 degrés 52 minutes 33,2 longitude est, se trouve un bar, sur une place avec une fontaine en son centre et un arbre à chaque coin, le Green Coffee. Oh, un lieu tout à fait ordinaire à première vue, un lieu de passage très fréquenté qui n'aurait pas d'intérêt en dehors du trompe-l'œil faisant face au bar. Et pourtant, ce lieu modeste cache bien plus. Regarde à tes pieds. Allez, vas-y, regarde à tes pieds, allez. Si tu es chez toi ou un endroit autre que celui magistralement décrit plus haut, tu verras tes pieds. Si, je t'assure, ne t'en fais pas pour ça. Et si au contraire tu lis ces lignes face au lieu dit, en plus de voir tes pieds, tu verras la ligne de tramway passant devant le Green Coffee, ainsi qu'une singularité. Une ligne de tramway se détache de la ligne principale pour buter au pied d'un arbre faisant l'un des coins de la place. Alors, l'histoire officielle mentionne un projet de raccord entre les deux lignes de tramway présentes à cet endroit qui a échoué à cause des conflits entre différents acteurs urbains. La mairie, propriétaire du bar, voisinage, protection de la nature, mafia écureuil, bon bref. D'autres diront que l'ingénieur responsable était bourré le jour de la pose des rails et a lu son plan à l'envers. En vérité, je l'écris, l'ingénieur est un membre des piliers de bar. Oui. Par son entremise et les connexions de la secte avec les plus hautes strates du pouvoir politique montpelliérain, il raccorda les rails du tramway à des rails secrets descendant en spirale vers une grotte naturelle aménagée faisant office de quartier général des PDC de la ville. Cet accès est le seul moyen, et le moyen le plus rapide, pardon, via un wagon, pour ces agents de l'ivresse liquide, de descendre dans les abysses éthyliques de leur rite sacré. Alors si par hasard, tu passes devant ce lieu au retour de l'une de tes soirées, quand la nuit est à son apogée, tu auras peut-être l'opportunité de voir un wagon transporter devant toi des PDC en bure violette et disparaître dans une trappe, elle aussi secrète, d'où tu pourras entendre des chants de beuverie remonter des profondeurs de la terre, ainsi que les cris d'un foie novice martyrisé. Et dernier conseil, dans cette situation, s'il ne veut pas être à sa place, cache-toi. Yermat, comme on dit. Quoi, oui, hein, y a un problème? Ah bon, quoi? Ah, je vois. Tu te demandes comment j'ai réussi à tenir toutes ces informations sans la moindre égratignure ni trou noir. Eh bien, mon insatiable curiosité m'a vite poussé à développer des capacités de déguisement et de discrétion indispensables dans mes recherches, ainsi que dans ma quête de connaissances. Bon, je sais que je peux compter sur elle, autant que sur ma grande agilité pour rester indétectable. Attendez. Ils l'ont raccordé. Les lignes de tramway font leur jonction. L'arbre est abattu. Je ne sais comment ils ont su que j'allais écrire une histoire à leur sujet, mais le fait est là. Le passage n'est plus ainsi que tout le complexe considérant comme si tout cela n'avait jamais existé. Ils vont s'en prendre à moi, c'est certain. À chaque fois que je traîne dans un bar, je sens des regards appuyés sur moi, épiant chacun de mes levées de coude, chaque gorgée. Je ne peux plus me vidanger sans être suivi par un PDC partageant soi-disant la même pulsion primaire. Une odeur d'alcool m'accompagne dans tous mes déplacements en ville. D'abord ténue, elle se faisait chaque jour plus intense, et maintenant je distingue dans ces vapeurs les odeurs de vodka, de whisky, de rhum mélangés parfois avec une clairette du Languedoc. Elle m'enveloppe toujours un peu plus. Je n'endors plus. J'écris ces lignes à la hâte, ma main fébrile émue par l'urgence. Je compte chacun de mes battements de cœur comme si c'était le dernier. L'odeur d'alcool a soudainement disparu plus tôt dans la soirée pour réapparaître plus forte que jamais au milieu de la nuit, me réveillant en sursaut. Ils sont tout proches. Ils vont m'embarquer pour noyer littéralement ma mémoire et mon foie. Il ne faut pas que j'oublie. Il faut que je cache mes écrits. Attendez. On tape à la porte. L'ai-je bien fermé? Il faut que je vérifie.
Merci Ryan.
Merci.
Alors,
à vous.
Outre vos talents d'écriture, vous avez aussi un vrai talent de conteur.
Merci. Ça, il faut remercier mes années d'animation à conter des histoires aux enfants pour avant d'aller se coucher.
Oui.
Ça m'a beaucoup entraîné. Et oui, et le théâtre aussi. Un peu de théâtre.
Oui, on sent que vous maîtrisez bien.
J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup raconter des histoires aux autres. Oui. C'est toujours très, très sympathique.
Alors, vous avez des rites d'écriture? Vous écrivez quand? Plutôt la nuit? Plutôt le jour?
J'ai pas vraiment de préférence quand ça me vient vraiment. Par exemple, une autre des nouvelles de ce recueil jamais sorti encore, je l'ai écrite dans un bar. voilà, par exemple. Donc, c'était plutôt après-midi, soir. Une autre nouvelle, je l'écrivais plutôt la journée parce que c'était dans un lieu un peu plus nature, on va dire, autour de Montpellier. Donc j'avais besoin d'y aller, de me poser, et de profiter de la lumière du jour pour écrire. Ça dépend vraiment de ce que je veux, de ce que je recherche.
D'accord. Et une nouvelle, ça se travaille aussi longtemps qu'un roman, enfin...
Ça dépend laquelle.
Il y en a qui viennent comme ça spontanément.
Lors d'un an, ouais, je pense bien 3 ans d'écriture et de réécriture. La scène des pieds de barre, peut-être en 3 mois, 4 mois, c'était plié avec les réécritures et corrections, oui.
D'accord.
Donc ça va, ça dépend de l'énergie que j'y mets et le degré de sérieux aussi dans lequel je me porte.
Oui. Mais ça doit être... C'est pas difficile de changer de registre comme ça, parce que ça c'est plutôt drôle par rapport à votre roman.
Je dirais que non. Enfin, ça m'est venu comme ça en fait.
D'accord.
J'avais mes nouvelles sur Montpellier, j'avais envie de mettre un peu de fantastique dans mon quotidien. Bon voilà, je l'ai fait, ça m'a pris évidemment du temps, j'ai pris certains lieux spécifiques, certains très connus à Montpellier, d'autres c'est pas du tout, où il faut vraiment les chercher, où ils passent totalement inaperçus, mais pour moi c'est des choses que je vois voilà, quotidiennement. Donc non, ça dépend de ce que je ressens moi quand je suis dans ce lieu, voilà, pour prendre les nouvelles, ou de ce que j'ai vécu dans mon rêve. Du coup, ça, tout dépend surtout de ça, ce que je ressens. Je suis très lié à mes émotions. Donc voilà, elles sont un peu. C'est vrai qu'elles sont un peu le départ de tout à force d'en parler là comme ça.
Alors vous avez vaguement abordé le sujet. Vous avez quoi comme projet d'écriture?
Finir ces nouvelles là.
Oui.
J'aimerais bien vraiment terminer cette 8e nouvelle, vraiment la réécrire là, correctement. Elle a déjà passé par un passage de correction. Il faut que je me repenche là-dessus. À savoir que l'heure des revenants, à la base, j'avais donné un recueil de 3 nouvelles en fait à la cour de l'imaginaire. Et ils n'ont retenu que celle-là. C'est déjà très très bien, merci encore beaucoup. Hein. C'est déjà énorme. Et du coup, j'ai techniquement 2 autres nouvelles qui sont déjà prêtes, qui sont déjà travaillées énormément. Et actuellement, j'en ai une 4e qui est en cours, que j'ai en train d'écrire là chez moi, petit à petit. Les 4 sont très très différentes, mais toutes liées d'une certaine manière au fantastique, ou un peu à la science-fiction, mais surtout fantastique. Et j'ai un autre projet qui lui va être beaucoup plus conséquent, beaucoup plus gros. J'ai à peine commencé, j'ai que les idées en tête et j'ai jeté quelques petites choses sur le papier pour le moment. Pour en donner un peu plus, ça va être plus un roman, ça va être beaucoup plus gros. Et ça, à défaut des autres, par rapport aux autres, ce sera ni par rapport à Montpellier, ni par rapport à mes rêves, mais par rapport à une aventure que j'ai eue pendant 6 ans. Avec des amis avec qui j'ai fait un jeu de rôle. Cette campagne a été très longue, 6 années quand même, de rendez-vous réguliers pour s'amuser ensemble, pour créer une histoire ensemble. Bon voilà, peut-être qu'elle n'amènera rien, mais j'ai envie de l'écrire ne serait-ce que pour moi et mes amis, parce que ça a été tellement une part de notre vie pendant 6 années, ça a été tellement incroyable, on a vécu tellement de choses ensemble via notre imaginaire que j'ai envie de le coucher sur papier.
D'accord. Et vous faites d'autres jeux de rôle en ce moment ?
Pas en ce moment. J'ai mis sur ma liste de Noël un jeu de rôle pour le faire avec mes amis et mes colocs. Peut-être pour Noël ou peut-être un petit peu après, si j'arrive à l'avoir. Si je me fais ce propre cadeau à moi-même, qui sait. J'aimerais bien. J'aimerais bien refaire du jeu de rôle. C'est quelque chose que j'aime énormément. Ça stimule beaucoup l'imaginaire. C'est très, très intéressant. Je le conseille à tout le monde de faire au moins d'essayer une fois. C'est fantastique, le jeu de rôle.
Alors, pourquoi vous écrivez ? C'est un besoin ? C'est quoi ?
Être riche, évidemment. Pour être riche, évidemment.
Bien sûr, tout le monde le sait.
Je ne l'explique pas vraiment. J'avais besoin. J'avais besoin, comme j'avais besoin d'écrire mes rêves.
Oui.
Et je crois que c'est venu un peu... naturellement par la suite en fait. Mm-hmm. J'avais envie d'écrire mes rêves et puis mes rêves sont devenus certains des... Oui, d'ailleurs, les trois autres, enfin les deux qui sont déjà finies, celles que je suis en train de fignoler, de continuer à avancer, elles viennent toutes de mes rêves.
Oui,
donc
d'accord.
J'ai quatre grosses nouvelles qui viennent de mes rêves et voilà, j'avais besoin de les écrire et elles sont écrites et ben, j'ai réussi à en faire quelque chose et je trouve ça déjà absolument incroyable.
Et vous êtes toujours souvenu de vos rêves, même petit ?
C'est quelque chose que j'avais régulièrement, oui, quand j'étais petit, quand je rêvais, j'avais souvent des traces de ce qui me, des choses qui me restaient au matin. Mm-hmm. Et en fait, l'idée de les écrire, en fait, m'est venue en lisant Bernard Werber.
Oui.
C'était les fourmis, il me semble. Ouais, c'était ça, c'est dans les fourmis. Voilà, ça vous parle.
Oui, j'ai lu.
Et il parle justement de ça à certains moments et notamment aussi dans l'ancien, parce qu'il y a dans mes souvenirs, vous savez, entre chaque chapitre, il y avait des pages dédiées à son encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et il y avait une page qui m'avait beaucoup marqué sur une ethnie, une tribu, je crois, d'Amazonie qui base toute leur culture autour des rêves, en fait. Et depuis très jeune, les enfants et jusqu'à l'âge adulte, toute la tribu, en fait, le matin, quand ils se lèvent, ils partagent ce qu'ils ont vécu dans leurs rêves, en fait.
Oui.
Parce que c'est quelque chose vraiment de très important pour eux. Bon, il s'avère que ethnographiquement, c'est pas très très correct, c'est pas exactement ça. Passons. Mais à l'époque, en tout cas, ça m'avait beaucoup marqué. J'ai fait, mais tiens, moi aussi, j'ai envie de le faire. J'ai des rêves, il se passe des trucs quand je dors, pourquoi pas.
D'accord.
C'est parti de là. Merci Bernard Werber, pour le coup.
Alors que moi, je me réveille la nuit, je me dis, oh bah ça c'est bien, et puis bah, au matin, c'est fini. Quoi.
Ah
c'est
non, parti. Il faut l'écrire tout de suite. Hein. Même en pleine nuit, on savait si vous vraiment, vraiment, c'est tout le problème de notre cerveau, du conflit qu'on a entre notre cerveau gauche et notre cerveau droit. Bon, pour faire très 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 simple, je ne suis pas spécialiste, mais il faut, quand on se lève le matin, si vous avez une trace, n'importe quoi, et vous avez vraiment envie, vous avez l'énergie de faire ça, ça vous tente de tester l'aventure, il faut le faire. Il faut le faire tout de suite. C'est vraiment la première chose avant absolument tout. Vous n'allez pas aux toilettes, vous ne faites pas tourner un café, rien à faire. Vous prenez votre carnet, vous restez dans votre lit, vous prenez votre carnet, vous prenez votre stylo, vous allumez les lumières et vous écrivez.
Oui.
Soit en pleine nuit ou dès le matin, si vous avez le temps, même 5 minutes, si vous mettez les grandes lignes pour vous dire l'heure des revenants, ça tient en 10 lignes dans mon rêve.
D'accord.
Ça tient en 10 lignes. Je l'ai résumé en 10 lignes parce que c'était trop, il y avait trop de choses et j'ai voulu noter surtout ce qui était vraiment le plus important et le plus concret et tout le reste est et en fait ça, rien que ces 10 lignes là, on l'a ancré en moi et en retravaillant dessus, en revenant dessus, en fait ça m'a permis de refaire ressurgir ma mémoire du coup de mon rêve parce que je l'avais réussi à le graver en moi.
Eh ben merci à Ryan Libert d'être venu nous parler un peu de lui et de son roman, bien sûr, L'heure des revenants, publié aux éditions Nerea. Merci à Raymond d'être venu nous présenter La cour de l'imaginaire et le prix délivré chaque année par ce collectif de passionnés. Et de, voilà. Donc, longue vie à La cour de l'imaginaire. Merci à Joris qui était à la technique aujourd'hui. Et nous nous quittons avec John Lennon.
Merci
au revoir à tous.
Au revoir.
Et à bientôt. Sky.